Mémoire vive.
Présenté par Christelle Le Polothèque
et préparé par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Claude Burgelin, professeur émérite des universités, grand spécialiste de Georges Perec, dont vous avez notamment fait une biographie. Et votre dernier ouvrage s'intitule « Les Malnommés », paru l'année dernière aux éditions du Seuil. Claude Burgelin, vous interviendrez mardi 19 novembre au Collège de France, dans le cadre des conférences Littérature et Shoah, dans la grande bibliothèque de la catastrophe. Un cycle de conférences réalisé par la Fondation pour la mémoire de la Shoah et coordonné par Annie Dayan-Rosenman, que nous avons reçue la semaine dernière. Votre conférence s'intitule « Georges Perec, être juif ? Une question, un flottement, une inquiétude ?» Cette identité amputée est-elle au cœur de la problématique de Georges Perec, puisque ses parents ont disparu avant d'avoir pu lui transmettre ?
Elle l'est absolument, totalement et fondamentalement. Georges Perec est né en 1936. Ses parents étaient des juifs polonais d'émigration relativement récente. La langue qu'il parlait était probablement le yiddish. Son père a été tué dans les opérations militaires de juin 40. Sa mère l'a fait partir fin 41, début 42.
Parce qu'ils étaient à Paris, la mère en
fait. Oui, à Paris, pour le Vercors, où il a été là protégé pendant la guerre. Elle lui a dit adieu à la gare de Lyon. Le traumatisme de la séparation a été si fort qu'il a perdu le souvenir de sa mère, de la voix de sa mère, de la langue de sa mère, bien évidemment. Et cette mère, elle a été raflée fin 42 et elle a péri en février 43 à Auschwitz. Donc ces événements sont absolument fondateurs pour lui. Et cet enfant a eu à faire face de 42 à 45 à la situation la plus difficile qui soit, c'est-à-dire non pas un deuil, mais de faire face à une disparition. Sa mère avait disparu et personne n'était capable de lui dire ce qu'il était advenu de sa mère. Et peut-être personne ne lui a jamais dit vraiment, il l'a compris en 1945, notamment, semble-t-il, d'après la lecture de W, à la vision d'une exposition consacrée au camp.
À la fin de la guerre, après
En 1945, oui. Et ce qu'il a vu, c'est les neiges blanches du Vercors, un grand silence blanc. Donc le mot de silence, qui est un mot de Perec, là, il est tout à fait fondé. Perec a souffert atrocement d'une absence de transmission, puisqu'il dit de ses parents, il dit je ne sais pas très précisément ce que c'est qu'être juif, ce que ça me fait que d'être juif. C'est une évidence, si l'on veut, mais une évidence médiocre qui ne me rattache à rien. Ce n'est pas un signe d'appartenance, ce serait plutôt un silence, une absence, une question, une mise en question, un flottement, une inquiétude. Et il continue plus loin. Quelque part, je suis étranger par rapport à quelque chose de moi-même. Quelque part, je suis différent, non pas différent des autres, différent des miens. Je ne parle pas la langue que mes parents parlèrent. Je ne partage aucun des souvenirs qu'ils purent avoir. Quelque chose qui était à eux, qui faisait qu'ils étaient eux, leur histoire, leur culture, leur espoir, ne m'a pas été transmis.
Là, c'est donc un extrait d'Ellis Island.
C'est un extrait d'Ellis Island, qui est un livre, c'est tout dernier livre, c'est paru en 80, et c'est au fond une fin de parcours pour lui d'arriver à dire cela.
Parce que finalement, la question de cette identité juive en tant que telle, est-ce qu'elle est abordée aussi frontalement dans d'autres livres ?
Non. Non, et c'est justement ça qui est passionnant chez Perec. D'abord, les premières années, on peut dire qu'il y a un refus. Un refus qui peut s'expliquer, hein, il y a à se reconstruire, à faire face à d'autres urgences vitales. Et comme beaucoup de gens de sa génération, ces gens qui ont fait les beaux jours de 68, il y a un besoin de chercher une réponse du côté du politique, notamment du côté du marxisme. Plus jamais ça, c'est la société sans classe, la société où ça n'aura pas de sens d'être juif ou de ne pas être juif. Et il y a eu aussi, en même temps, un autre affect très important chez lui, qui est la colère d'avoir été pris dans cette histoire-là. c'est une histoire qu'il a violemment refusée, d'une certaine façon. Et ça, c'est très intéressant qu'il ait laissé à ce point parler cette colère. Par exemple, dans « Un homme qui dort », qui est un ouvrage qui date de 67, on le voit errer dans la ville et il y a des bouffées de colère qu'il exprime sur les êtres de la ville. Il y a une bouffée de colère contre les bannis, parias, exclus, porteurs d'invisibles étoiles. Et surgit l'image des rats, qui est une image qui vient de la pire littérature antisémite et qu'il reprend à son compte. Donc il y a quelque chose d'avoir été au fond dans ce camp des vaincus et quelque chose qui est pour lui inacceptable. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les premiers livres effectivement ne disent rien a priori de cette histoire-là, mais en même temps, si on leur applique cette grille de lecture, et ils deviennent très passionnants. Les choses, ça raconte une histoire de quête d'identité. De jeunes post-étudiants, qui ont un peu d'argent, ne sont plus, et qui se cherchent un mode de vie, justement, quelque chose qui leur soit transmis. Ils le cherchent à travers les vêtements, les objets, etc., en sachant que c'est des livrets d'emprunt et des objets qui ne signifient pas grand-chose. Mais ils se cherchent, littéralement, ils se cherchent comment se vêtir.
Et c'est comment d'apprendre se vêtir, et vous dites même, ils cherchent un savoir-vivre, mais au sens littéral.
Au sens littéral du mot, puisque rien ne leur a été transmis. Comment se construire un homme qui dort, c'est effectivement aussi un homme qui dort par rapport à cette histoire-là, dont il ne veut plus rien savoir, et qui n'arrive pas à vivre, et qui souffre abominablement de ne pas souffrir. Il souffre d'une souffrance silencieuse et blanche qu'il ne peut pas lui-même s'expliquer. Et c'est effectivement un jeune homme sans... On voit bien que les liens familiaux n'existent quasiment pas, et sans référence, sans assises. Et au fond, il va se réapproprier cette histoire-là de son histoire en écrivant « La disparition ».
Oui, puisque... ou la disparition, là, c'est le titre qui, à la limite, de manière absolument évidente, renvoie à son histoire, comme Les Revenantes, un peu plus tard.
Oui, mais ce qui est curieux, c'est qu'on a pu lire La disparition, les premiers lecteurs de La disparition ne se sont pas rendus compte que cette histoire-là était là derrière. Et effectivement, ce qui disparaît, c'est la lettre E, c'est-à-dire la lettre pivot et fondamentale de la langue française. Et c'est une parabole de, effectivement, qu'est-ce qui se passe quand disparaît une culture, une civilisation fondatrice de l'Occident, comme peut l'être la culture juive. Alors, ce qui est très saisissant, c'est que tous les personnages de la disparition s'aperçoivent qu'ils sont parents sans le savoir et porteurs d'une marque invisible, mais qui est visible aux yeux des autres, mais qu'eux-mêmes ne voient pas. Et c'est effectivement une parabole saisissante, d'autant plus saisissante que c'est une histoire drôle. Et donc que ça prend à revers. C'est une façon de raconter l'histoire de la Shoah totalement inattendue et par là même très stimulante.
Mais on l'a vu, donc, Georges Perec était enfant caché, je crois qu'il s'est même fait baptiser.
Il a été baptisé.
Il ne va cesser d'écrire et de réécrire l'absence, la disparition de ses parents, tout en faisant comme s'il parlait d'autre chose. Vous l'avez dit, le lecteur peu averti peut tout à fait lire ses livres sans voir cette partie cachée, on va dire, c'est vraiment le mot là. Est-ce que vous pensez que c'est... lié à ça, à cette enfance cachée, cette impossibilité de parler directement de ce sujet ?
Alors, vous posez une question très complexe. Au centre de W, le souvenir d'enfance, son autobiographie, vous vous souvenez qu'il y a une page blanche avec deux parenthèses et trois points de suspension entre les deux parenthèses, ce qu'on ne sait pas dire, ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on ne veut pas dire, et qui symbolise la disparition de la mère. Et le récit se construit autour de ce silence, cette page blanche, ce pas possible à dire. Et effectivement, et ce pas possible à dire est le moteur de la construction en même temps. C'est ce silence qui est la case vide qui permet que les autres pièces de son puzzle puissent bouger. Et puis, il y a quelque chose aussi très essentiel, qui est que ce qui a disparu en 1942, ce n'est pas seulement sa mère, et puisqu'il a perdu la mémoire de la mère, c'est l'enfant qu'il fut auprès de cette mère. Et donc, désormais, C'est un autre Georges Perec, et d'une certaine façon un faux Georges Perec qui est là et qui existe. Et il est frappant de voir que le thème du faux est un thème qui va l'obséder. Le faux dans la représentation, puisque le faux en peinture...
Les faussaires,
ça donne le cabinet d'amateur en fin de parcours, et ça donne le comte de Thiers en début de parcours. Et c'est très intéressant, le comte de Thiers. Donc c'est un roman qu'on avait perdu, qui a été
retrouvé. C'est un de ses premiers romans, c'est ça ?
C'est son tout premier roman, qui avait été refusé par les éditeurs pour des raisons qu'on peut comprendre, et qui a été republié en 2012. Et donc c'est l'histoire d'un faussaire qui s'est fixé comme enjeu de faire un faux Antonello de Messine et qui n'y arrive pas et qui va assassiner ce commanditaire. Et toute la seconde moitié du livre est une longue interrogatoire. Le personnage l'interroge sur les tenants aboutissants de son histoire. Pourquoi est-ce qu'il est devenu faussaire ? Il explique qu'il est devenu faussaire à partir de 1943, ce qui est une date qui ne peut que faire dresser l'oreille, et définitivement faussaire en 1947. Et le faussaire, c'est quelqu'un qui n'a pas d'identité, puisqu'il se remplit, il reproduit les peintures des autres, et il faut justement qu'il n'y ait aucune marque de lui-même. Et on sait que Perec a été très fasciné par toutes les procédures d'automatisation, de production dans la langue, comme l'Oulipo lui a permis de les explorer. Et il a, à la fin du conte de Thiers, des formules absolument étonnantes où il dit qu'il est un être sans passé, sans histoire, et il dit notamment ceci. Je croyais être en sécurité, mais ma carapace m'étouffait, ma tour d'ivoire m'isolait. Je ne me rendais pas compte, c'était une drôle d'existence, tellement fausse, tellement plus fausse que ce que je voulais, fausse à l'intérieur de sa fausseté, tu comprends, une vie sans racines, sans attache, sans autre passé que le passé du monde abstrait et figé comme un catalogue de musée, l'univers mesquin, le camp, le ghetto. Et tout à coup va arriver le camp, le ghetto, c'est, rien n'y a fait allusion précédemment. Mais c'est, je trouve très illuminant l'idée que désormais il était voué au faux et que c'était à cela que son histoire l'avait confronté, puisque la vérité, le vrai Georges Perec était définitivement perdu.
Dans W, le souvenir d'enfance, il y a aussi cette phrase qui semble assez éclairante sur le... peut-être même le fondement des écritures orphelines. Je vous la cite. J'écris parce que nous avons vécu ensemble, parce que j'ai été un parmi eux, ombre au milieu de leurs ombres, corps près de leur corps. J'écris parce qu'ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l'écriture. Leur souvenir est mort à l'écriture, l'écriture est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie.
C'est un texte admirable où il dit en très peu de mots quelque chose de fondamental. L'écriture est la trace de leur mort. Qu'effectivement, il y a derrière tout ce que dit Perec, et derrière les pirouettes les plus drôles, les plus amusantes, les plus follement débridées de Perec, il y a cela, cette perte, ce manque. Et qu'il nous signifie tout le temps que c'est sur ce fond de vide que se déploie ce grand théâtre de l'écriture, y compris dans ses scènes les plus inspirées. Et en même temps, l'affirmation de la vie. Et qu'effectivement, alors ce que raconte très très remarquablement W, c'est comment il a repris racine dans la vie en reprenant racine dans l'univers des chiffres, des signes, des lettres, de la littérature, du livre. Et que c'est ça qui lui a permis de se réancrer dans le monde, reprendre vie, mais en n'oubliant jamais le souvenir de leur mort.
Pour revenir à ce que vous disiez à l'instant, donc on imagine que l'Oulipo a joué un rôle fondamental aussi, puisque c'est...
L'Oulipo a joué un rôle très fondamental, d'une part parce que ça a été une grande bande de copains, et ça a été très important, de relations d'amitié, d'amicalité. Et puis que Perec qui était vraiment sur son terrain, puisque son terrain, ça a toujours été la langue. Le Pérec que j'ai connu, très amical et très chaleureux, était au fond comme un enfant qui vous dit « Viens jouer avec moi au grand jeu des lettres et des mots ». Il produisait des mots d'esprit de façon fulgurante, c'était un feu d'artifice permanent. Et effectivement, la complicité qu'il vous proposait, c'était toujours celle-là. Et c'était d'ailleurs tout à fait délicieux. Et puis l'Oulipo lui a permis effectivement de... La contrainte a été d'une efficacité formidable puisqu'elle lui a permis d'écrire les chefs-d'œuvre que sont La Disparition, La Vie mode d'emploi.
Vous parliez donc du livre, du mot, des lettres. Il y a aussi deux pôles importants, on va dire, dans son œuvre. C'est l'espace et la mémoire. Les deux sont très liés d'ailleurs.
Bien sûr. Pour quelqu'un pour qui la problématique du temps a été cassée, la façon de reconstituer quelque chose de cet ordre est dans la capture, ou en tout cas l'inventaire des espaces. Et « Espèce d'espace » est un livre magnifique et très inspirant, avec ces espaces qui s'emboîtent sans vraiment s'emboîter les uns dans les autres. « Espèce d'espace » se termine sur la problématique de la trace. Écrire, retenir, tracer quelques signes, qu'effectivement, c'est les espaces fuient comme le temps fuit et que la seule parade qu'on ait, c'est effectivement l'écriture.
Sur cette question de l'espace, c'est Pérec, je crois lui-même, qui disait que le W de W, le souvenir d'enfance, c'est en fait la contraction de deux initiales, le de V, celui de la rue Villain où il habitait avec sa mère, et puis le V de Villard-de-Lans, c'est-à-dire là où il a passé la guerre. Toujours, on va retrouver dans chacun des écrits des éléments comme ça, autobiographiques.
Oui, ça a été une façon de se réenraciner, de mettre ses marques, parfois des marques très secrètes. Comme par exemple, il était obsédé par les chiffres 7, 11, 43, 43 parce que 43 était l'année de la mort de sa mère, et donc on trouve des énoncés en 43 lettres, des choses comme ça, tout le temps. Effectivement, il a littéralement tatoué ces textes de ces marques-là.
Vous vous êtes aussi penché, Claude Bourgelin, sur la question des noms dans votre dernier livre. Celui de Pérec a joué un rôle assez particulier pendant la guerre.
Oui, puisqu'il parle de la dissimulation patronymique de son origine juive qui était recelée dans son nom. Et effectivement, le nom de Pérec, il fait plus breton que juif. Marie-Josée Pérec, elle avait un accent, mais elle n'avait rien de particulièrement juif. Et donc, c'est un nom qu'il a protégé. Et c'est un pur effet de graphie, puisque un de ses oncles, par exemple, frère de son père, s'appelait Peretz, parce que c'était une graphie russe au lieu d'être une graphie polonaise. Et il faudrait prononcer Peretz. Bon, mais Pérec en français, ça passe très bien. Dissimulation patronymique de son origine juive, c'est comme s'il y avait une culpabilité ou une faute dans ce nom. Et la seule chose qui aurait pu prouver son origine juive était l'absence d'accent de Pérec. Avec son baptême, puisqu'il a été baptisé en 43 par sécurité, l'Église catholique lui a donné un accent. Pérec. L'acte de baptême, il est Pérec avec accent. Et la question du nœud, de l'accentué, de l'inaccentué, est une question qui l'a obsédé. Et la question de qu'est-ce qui se voit dans un nom. Effectivement, comment savoir si quelqu'un est juif, la première des choses, c'est effectivement la question du nom. Or là, le nom est une cachette, alors qu'il devrait être...
C'est ça qui est absolument incroyable, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu à changer, il a été effectivement protégé d'une certaine manière. C'est absolument incroyable, cette histoire. On va peut-être revenir avec vous sur ce livre avec lequel vous avez commencé, Ellis Island. Donc vous le disiez, c'est un peu à cette occasion, qui est un livre qui est aussi un documentaire, c'est ça vous
êtes... Oui, c'est donc il est parti avec Robert Bobert, qui a joué, je crois, un rôle considérable et très positif dans cette histoire-là, puisque Robert Bobert l'a amené à remettre des mots, justement, sur cette histoire-là. Bon, Ellis Island, c'était le lieu du dispatching là, des nouveaux immigrants. Et au fond, donc, Georges Perec est amené à s'interroger sur ce que c'est qu'un changement d'identité, une bascule d'identité, et sur ce qu'est devenu ce lieu, ce qu'a signifié ce passage où, alors que l'Amérique était fondamentalement une terre d'accueil, elle a pu être pour certains une terre de rejet, et de rejet presque de condamnation à mort, tous ceux qu'elle refusait, puisqu'ils étaient mal fichus, pour une raison ou pour une autre, physiquement. Et donc, Perec dit ce que je suis venu interroger, bah, je vais redire ces mots qui sont... ce que moi, Georges Perec, je suis venu questionner ici, c'est l'errance, la dispersion, la diaspora. Ellis Island est pour moi le lieu même de l'exil, c'est-à-dire le lieu de l'absence de lieu, le non-lieu, le nulle part. C'est en ce sens que ces images me concernent, me fascinent, m'impliquent, comme si la recherche de mon identité passait par l'appropriation de ce lieu dépotoir, le lieu de l'absence de lieu. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il soit revenu sur ce que c'était que l'exil et comment ça avait été fondateur pour lui et qu'est-ce que ça veut dire que de ne pas avoir de lieu, le lieu de l'absence de lieu.
C'est-à-dire que lui se considère comme exilé. Pourtant, il est né en France.
Il est né en France, bien sûr, dans une famille qui a joué le jeu de l'assimilation, intégration de façon très concertée et admirablement réussie. Bien sûr, il était français, mais plus ça allait, plus le fait que
L'absence de racines le faisait sentir exilé.
L'interroger, un des textes qu'il voulait écrire, qu'il n'a pas eu le temps d'écrire, ce serait appelé l'arbre. Et ça aurait été l'arbre généalogique où il aurait fait l'inventaire de ce qu'il savait, ce qu'il pouvait savoir de ceux qui étaient ses ancêtres, en tout cas du côté paternel.
Mais c'est étonnant qu'il ait été jusqu'à New York, en fait, pour aller interroger sa propre identité juive, en l'occurrence.
Il faut, mais oui, mais c'est des vertus.
À l'opposé de la Pologne, on va dire.
Des vertus du déplacement. Mmh. Mais oui, il est allé en Pologne aussi, et il est allé constater que dans le shtetl de Lubartov, il n'y avait rigoureusement rien à voir. Tout avait été détruit, et là, c'était le non-lieu. Mmh. Et c'est. Quelles traces les lieux gardent-ils ? C'est une question qui n'a cessé de l'obséder. Il voulait écrire un ouvrage, là aussi, c'est un ouvrage inachevé, qui serait appelé « Lieux », et un certain nombre de lieux de Paris qu'il aurait décrit pendant 12 années de suite, 12 années aussi où il aurait fait des textes sur le souvenir qu'il gardait de ces lieux, et au bout du compte, on aurait eu 288 textes sur des lieux de Paris. Et c'est très dommage qu'il n'ait pas mené jusqu'au bout ce projet, mais c'est la question même de l'enracinement et de la trace qui est posée là.
Je vous remercie beaucoup, Claude Burgelin. Nos auditeurs pourront donc vous retrouver lors du cycle de conférences Littérature et Shoah dans la Grande Bibliothèque de la Catastrophe, qui aura lieu avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah au Collège de France à Paris, les 12, 19 et 26 novembre prochains à 17h précises. Si l'on veut vous écouter, c'est donc le mardi 19 décembre.
Novembre,
merci. une entrée libre sur réservation auprès de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoire vive au pluriel.net.